dit un garçon et une fille, et Beit Shammai dit deux garçons et une fille. Mais la halakha est comme Beit Hillel. C'est-à-dire, dès qu'un couple de parents a un garçon et une fille, il a réalisé le commandement de Pérou. On apprend dans le Shulchan Aruch toutes les dispositions. Et il faut que le fils qui est né soit à son tour, et la fille soit à son tour capable d'avoir des enfants pour que le père, devenu le grand-père, a réalisé vraiment sa mitzvah. Si entre-temps, le fils est mort avant lui-même d'avoir eu des enfants, le père a encore obligation d'avoir un fils. Est-ce que c'est clair? Je pense que c'est suffisamment précis. C'est-à-dire, la chova, l'obligation de Pérou, porte sur un garçon et une fille. C'est une mitzvah qu'on a l'habitude d'être mahmir, c'est-à-dire de faire plus. Mais l'obligation stricte, c'est un garçon et une fille. Et alors, ça serait dû au problème du planning familial. Vous comprenez pourquoi les rabbins ont des solutions à eux concernant ce problème. Mais il y a des cas particuliers qui peuvent être dramatiques. Par exemple, un couple qui n'a que des filles. Alors, il faut continuer à avoir des enfants jusqu'à qu'arrive un garçon. Alors vous avez des couples, il y a des ribambelles de filles à marier avant que le garçon arrive. Ou l'inverse. Si un couple n'a que des garçons, il faut qu'il continue à avoir des enfants jusqu'à ce qu'il y ait une fille. Bon, il y a des raisons profondes, religieuses, pour lesquelles il faut et un garçon et une fille pour réaliser cette mitzvah. Mais ce que je voulais mettre en évidence, c'est que cette discussion du Talmud nous fait comprendre que Vaibarer, ce n'est pas un souhait. C'est une action que Dieu fait sur sa créature et qu'il la rend bénie, c'est-à-dire fécond. Alors retenez la règle, elle est simple. Un être ou une chose bénie, c'est un être ou une chose qui est plus qu'elle-même, qui a plus qu'un potentiel, qui a une fécondité intérieure, c'est ça la bénédiction. Oui, ça implique l'abondance. Mais c'est le deuxième terme. Rebou, c'est l'abondance. Il y a d'abord la fructification, le fait d'être capable de donner un fruit. C'est un sujet très important. L'arbre et son fruit. On en a parlé, je crois, au dernier cours. C'est vous qui avez trouvé le verset, d'ailleurs. C'est pas vous? Alors, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas avec vous qu'on a étudié ça? Un verset du premier psaume, ok? Et vous voyez, le père et le fils. Dans cette image, le père est considéré comme celui qui porte le fruit, le fils c'est le fruit. Et ensuite, ce fruit est multiplié. Alors il y a un commandement donné à l'histoire de l'humanité dans ce verset. D'abord, l'homme doit engendrer le fils de l'homme. On apprendra plus tard quelles sont les différences de niveau d'identité lorsque la Torah dit Adam ou Ben Adam. Et surtout chez les prophètes, la notion du fils de l'homme, évacuer ce que les chrétiens ont fait de ça. Mais pourquoi la Torah emploie deux expressions différentes, Adam, l'identité homme, et cette identité homme est dans une histoire qui a pour objet d'engendrer le fils de l'homme. Pérou, étant que ce péri n'est pas arrivé, il y a interdiction de multiplier les ébauches, de multiplier les brouillons. Vous rattacherez ça au fait, une question générale, on la retrouvera à partir de l'histoire d'Abraham. Pourquoi la descendance d'Abraham par Israël est relativement si peu nombreuse par rapport au reste de l'humanité? Il se cherche un engendrement, tant qu'il n'est pas réussi, interdiction de le multiplier. De multiplier trop. On verra que c'était une des causes directes du déluge. Que l'humanité a multiplié une ébauche d'identité humaine avant qu'elle ne soit vraiment le fruit attendu. Et alors la sanction a été le déluge. Vous relirez à l'avance les versets qui annoncent le déluge. Je vous dis le verset de mémoire, et vous retrouverez tous ces textes. Vaihi ki echel ha'adam larov al penei adama. Et il arriva lorsque l'homme a commencé à se multiplier sur la surface de la terre, ou banot yuldu lahem, et des filles leur furent nées. Alors ce verset est difficile, c'est la cause directe du déluge. Ce verset est difficile parce que si l'humanité a commencé à se multiplier, il y a eu des garçons et des filles. Alors qu'est-ce que veut dire le verset en disant « Vaïli, il arriva, qui est fait l'Adam Laro, lorsque l'homme eut commencé à se multiplier, Alpena Adama, sur la surface de la terre, ou Banot Yululaem, des filles leur furent nées. » Alors la réponse, on le trouve dans cette explication. Il y a un ordre. D'abord Pérou, et ensuite Rebou. Et qu'est-ce que dit le verset « Vaïli, qui est fait l'Adam Laro » Le verset ne dit pas « Vaï ki echel adam rov al pene adama » ce qui donnerait la traduction que vous trouvez dans les Bibles traduites, il arriva lorsque l'homme il commençait à se multiplier. En hébreu, l'arov, ça a un tout autre sens. Ça veut dire, il arriva lorsque l'homme il commençait par se multiplier avant de fructifier. L'arov, paro. Quand vous familiariserez avec l'hébreu, vous verrez que c'est le sens simple. Non, c'est les traducteurs qui ont traduit autrement. Je répète, vous voyez, il y a un ordre dans ce commandement. L'humanité a un objectif, c'est son histoire, de donner un fruit de l'histoire humaine qui s'appelle le Fils de l'homme. C'est la perspective messianique de l'histoire selon la Torah. Et cette identité du Fils de l'homme, c'est l'homme messianique. Et quand l'homme messianique sera enfin engendré, le multiplier. Mais qu'est-ce que l'humanité a fait dans la première tentative de la civilisation humaine, selon le récit de la Torah, les 10 premières générations de Adam à Noé? Il y a eu multiplication avant fructification. Vous rattacherez ça en culture générale à une notion qui est très, très grave de la culture contemporaine, c'est la notion de masse. Vous voyez, je vous donnais une image tout à l'heure qui m'a beaucoup frappé dans mon expérience de ma vie en France. Et la première fois que j'étais dans un couloir du métro à 6h du soir, le métro de la place de l'Opéra, je ne sais pas si vous voyez les Parisiens. Alors vous avez une foule, une masse d'hommes et de femmes en train de lire l'avis de décès de l'humanité dans le monde. C'est une espèce de cortège funéraire. La notion de la valeur de l'individu humain disparaît dans la masse humaine qui est comme... Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Quand ce stade arrive, c'est ce que la Torah interdit. La multiplication avant la fructification. C'est le stade d'une civilisation où la valeur de la personne individuelle disparaît. On est perdu dans la masse. Et je crois que l'image qui, en tout cas, m'a le plus frappé, c'est cette image. Oh, les gratte-ciels, c'est la même chose. Mais enfin, l'image du métro. La foule anonyme, triste, qui défile en lisant la vie de décès de la dignité humaine. Vous voyez, à peu près le genre d'image que je veux dire. Alors, ça a été la cause immédiate du déluge, d'après le récit de la Torah. Quand, dans une cité, dans une civilisation, la notion de la valeur de chaque individu comme personne humaine est disparaît au profit de la masse, du nombre. Alors c'est l'effondrement d'une civilisation. Il n'y a pas eu d'exception. Le premier exemple dont la Bible nous raconte en détail, c'est Ninive. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Ninive, entendu par le prophète Jonas. C'est déjà le même exemple de manifestation. Et il n'y a pas de doute, la civilisation moderne est en train de tomber dans cet échec. Et tous les problèmes qui viennent de la démographie humaine et qu'on n'arrive pas à résoudre. Le problème de la faim dans le monde, le problème des guerres, le problème de l'exploitation de l'homme par l'homme, tous ces problèmes-là découlent de la même donnée, la multiplication avant la fructification. Bon, je referme la parenthèse, mais mettez ça dans un coin de votre mémoire. Alors voilà ce qu'on apprend, que la première fois que la Torah parle de bracha, l'exemple qu'elle donne de la bracha, c'est l'enfant qui va naître. Alors ça vous fait comprendre pourquoi, en hébreu, c'est la question que je vous avais posée la dernière fois, vous avez dû réfléchir, le mot de berech signifie le genou. Berech, bet, resh, kaf. Alors quel est le lien qu'il y a entre la bracha et le genou? Je vais vous décrire un peu l'association d'idées en culture française. Vous voyez, au temps des chevaliers, on pliait le genou pour recevoir la bénédiction. Mais ça, c'est du christianisme. Okay. En fait, c'est beaucoup plus direct que ça. Le genou s'appelle le genou, et je vous donnerai l'étymologie latine d'ailleurs tout à l'heure, parce que c'est l'endroit où la femme reçoit l'enfant à la naissance. Les genoux, birkaïm, c'est l'endroit où l'enfant vient être reçu. Vous avez par exemple deux fois dans la Torah, la scène, quand, par exemple, Rachel, qui était stérile, qui n'avait pas encore d'enfant, propose à Jacob de prendre sa servante comme femme, et elle dit « elle enfantera sur mes genoux ». Vous vous rappelez de ça? Alors voilà un indice, il y a aussi un autre épisode avec Sarah et Agar. Mais « Vatelet al-Birkai », c'est-à-dire le fait de désigner le genou comme étant l'endroit qui reçoit la bénédiction. Parce que la bénédiction, le signe de la bénédiction de la nature humaine, c'est le fait d'être capable d'engendrer. Alors faites bien attention, là j'ouvre une parenthèse, on aura toute l'année pour y revenir. C'est très différent, les petits d'hommes et le fils de l'homme. Mais ça, dès qu'on commencera l'histoire d'Abraham, vous apprendrez plus en détail. Ce que la Torah cherche dans ses engendrements, c'est le progrès de l'identité humaine. Le fait que l'homme, comme les espèces animales, est des petits, il y a des petits d'animaux, il y a des petits d'hommes, c'est pas ça, de ça qu'on parle dans l'engendrement du fils de l'homme. Vous verrez dans les généalogies, il y a de génération en génération, un tel engendra un tel et eut des fils et des filles. C'est-à-dire, l'homme se modifie à travers le temps de l'histoire, jusqu'à ce que l'homme en général, l'humanité en général, soit capable d'engendrer le fils de l'homme qui est l'identité messianique de l'histoire humaine. Alors, c'est deux niveaux complètement différents. Quand la Mikra, la Bible dit Ben Adam, le fils de l'homme avec une majuscule, ou bien les petits d'hommes, les Bnei Adam. Vous avez compris la différence, Ken ? Alors on suivra cette histoire des généalogies, surtout pour comprendre d'où sort Abraham. Abraham est fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, se rattache à Adam Arishon. Quelle est cette lignée particulière, la lignée des Hébreux, qui mène à Israël ? Et entre-temps, à chaque génération, ça se multiplie, ça se démultiplie, par copie plus ou moins conforme. Mais ce qu'on cherche dans cette lecture de l'histoire, c'est la modification du sujet de l'histoire qui passe de Adam à Ben Adam. Et le Ben Adam, c'est un Adam qui aura résolu les contradictions du Adam. Tout ça, on a à apprendre en détail et pas à pas. Mais gardez ça en mémoire. Et alors, vous avez donc Vaibarer, la bénédiction, ça veut dire rendre fécond. On revient à notre question du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un jour est béni ? Ça veut dire que le monde du septième jour a été béni. Je vous donne tout de suite la lecture du verset. Il a été béni, Dieu y a mis la bracha, parce qu'il va se cacher à cause du Shabbat. Et le fait pour Dieu de se cacher du monde transforme le monde en un enfer s'il n'y avait pas cette trace du Créateur qui est la bénédiction. C'est-à-dire avant de se cacher derrière l'apparence de la nature pour que l'homme soit libre, Dieu met la bénédiction dans le monde comme sa signature, si j'ose dire. Alors là, nous sommes en plein dans la foi d'Abraham. Je vais vous raconter comment le Midrash l'explique. Et vous comprenez tout de suite l'ordre que dit Rashi. Vaibarer d'abord, Vaikadesh après. Parce que Vaikadesh, il va se séparer du monde, alors avant de se cacher, je dirais même pas se retirer, c'est pas le mot, avant de se cacher, Dieu met la bracha comme preuve que il y a une absence qui indique une présence. La bracha est un signe dans la nature que le monde est créé à l'origine. Alors habituez-vous à cette idée de la bracha. Je veux dire comment le Midrash l'explique dans la vocation d'Abraham. Abraham, sa première vertu, c'est l'hospitalité. On a lu ça dans les parachutes précédentes. Alors le Midrash raconte qu'il a invité les passants à entrer dans sa tente et il leur donnait l'hospitalité. À la fin du repas, il leur disait, nous allons bénir celui grâce à qui on a mangé. Vous entrevoyez déjà l'importance du Birkat Hamazon dans la liturgie juive. Alors les invités d'Abraham avaient tendance à remercier Abraham. Et c'est là que Abraham leur expliquait que celui qu'il faut remercier, c'est le Créateur qui a mis la bénédiction dans le monde avant de se cacher le jour du Shabbat. Ça c'est Vaikadesh, se séparer. Sanctifier quelque chose, c'est le rendre intouchable. Le mettre à part. Alors Vaibarer, il le bénit parce qu'il va le sanctifier. Un Shabbat sans bracha, c'est l'ennui. Oui, le monde, s'il n'y avait pas la bracha dans le monde serait un enfer. Donc il faut qu'on comprenne qu'est-ce que c'est cette bracha qu'il y a dans le monde et qui est la preuve que le monde a été créé. Vous entendez bien ce que j'ai dit ? Je ne dis pas que c'est la preuve de l'existence de Dieu, c'est vrai aussi. Mais c'est la preuve que notre monde n'est pas seulement la nature, parce que dans la nature, il y a la bracha qui renvoie au Créateur. On s'adresse toujours à Dieu en l'appelant Baruch, source des bénédictions. On dit Baruch Ata. C'est pas aujourd'hui qu'on va étudier la formule, mais quand on l'étudiera, on y reviendra. Je reconnais que Dieu est la source des bénédictions qu'il y a dans le monde. Il faut d'abord que je sois capable de diagnostiquer qu'est-ce qu'une bénédiction. Alors je vais donner des exemples. Et pour bien comprendre qu'est-ce que c'est la bracha. Par exemple, dans la prière, on ne demande pas à Dieu la nourriture. La nourriture, on l'obtient par le travail. On demande à Dieu que la nourriture soit bénie. Alors, je vous donne un exemple. Vous suivez tout ça, hein ? Par exemple, quand on étudie dans le Talmud, quelles sont les prières interdites? Alors, il y a des prières interdites. D'abord, on apprend ça, il y a des prières interdites. Je donne un exemple. Par exemple, si je suis sur le chemin et je rentre chez moi, dans mon village, je vois au loin une maison qui brûle dans le village. Exemple de prière interdite, dire, mon Dieu, faites que ce ne soit pas ma maison qui brûle. Si c'est ta maison, c'est ta maison. Dieu n'est pas un magicien. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien faire attention à cela. De quel Dieu on parle? On parle du Créateur qui a créé le monde et nous y a situés pour que nous travaillions le monde pour le takenoto, la hasot, pour le faire être ce qu'il faut qu'il soit. Et donc, la nourriture, ça s'obtient par le travail. Mais il y a quelque chose qu'aucun travail ne peut donner. C'est la bénédiction. Je vous donne un exemple. La nourriture et le goût de la nourriture. La nourriture, c'est dans le monde de la nature. Mais que le fait que la nourriture, non seulement c'est les aliments, mais ça a un goût, le ta'am de la nourriture, c'est un indice de la bracha. On bénit sur le goût des choses. C'est pour ça qu'il y a des bénédictions différentes. Et ce mot de ta'am, vous apprendrez son importance dans le vocabulaire hébreu. Il y a un verset des psaumes qui dit « Ta'amu uru kitov Hashem ». Qui connaît ce verset ?« Ta'amu uru kitov Hashem ». Je traduis « Ta'amu, goûtez, uru et voyez, kitov Hashem, que Dieu est bon ». C'est-à-dire, voilà, on découvre quelque chose à laquelle on était tellement familier qu'on ne s'est pas rendu compte de ça. Il y a le monde de la nature, mais voilà, la nature, en plus d'être la nature, elle est bénie. Je vous donne un exemple simple, vous allez me dire si c'est suffisamment clair. Et on reprendra toutes ces choses-là. Dans le monde de la nature, il y a en plus quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la nature. C'est la bracha qui est dans la nature. C'est ça qui est la preuve disponible à tous. Il suffit de savoir diagnostiquer que c'est une bracha pour savoir que Dieu a créé le monde. Parce que si le monde n'était que la nature, l'eau par exemple, ça serait H2O. Je vous prends un exemple simple. Qu'est-ce que c'est H2O? C'est la formule chimique de l'eau. Okay, ça veut dire deux fois un atome d'hydrogène et une fois un atome d'oxygène. Mais H2O, l'eau distillée, n'a aucune des qualités de la réalité que j'appelle l'eau. L'eau a une saveur. L'eau est en cela soif. Alors que H2O, si nous étions dans un monde où les réalités ne seraient que ce que dit la formule chimique, c'est l'enfer. C'est un monde sans qualité, sans sensation, sans bracha. Alors voilà, vous avez déjà une notion sur laquelle il faut réfléchir, diagnostiquer qu'est-ce qu'est bracha dans notre monde. Et la bracha, c'est la trace du Créateur. Avant de se cacher, et ça c'est la kedusha, Dieu met la bracha dans le monde. Alors voilà, la foi d'Abraham, le témoignage d'Abraham, c'est d'enseigner aux créatures qu'elles sont dans un monde créé par Dieu, comment on le sait, pas par un raisonnement philosophique, par le goût de la bracha. C'est pourquoi le Birkat Hamazon est un héritage plus important du Shulchan Aruch. C'est plus important que la prière à la synagogue, le Birkat Hamazon. On étudiera ça plus en détail, mais je veux d'abord que vous découvriez les réalités comme elles sont. Vous savez cela, que le Birkat Hamazon, c'est une chova, une obligation pour tout le monde, quelles que soient les catégories, quelles que soient les circonstances. Il y a un commandement particulier dans la Torah concernant le Birkat Hamazon, alors que la prière dans la synagogue, c'est par allusion au culte des sacrifices qu'il y avait dans le temple. Avodah Shevalev. Tandis que pour le Birkat Hamazon, c'est un verset clair. « Ve'achalta, ve'savarta, uberachta ». Ça veut dire « Tu mangeras, tu te rassasieras et tu reconnaîtras que la bénédiction vient de Dieu. » « Uberachta ». Quand je dis une bracha, eh bien, je reconnais que j'ai reçu ce que j'ai reçu sous forme de bracha qui me vient de la source des brachot. Alors je dis à Dieu « Baruch atah Hashem, tu es la source des brachot ». Je ne m'adresse pas au Créateur. Je m'adresse au Créateur en tant qu'il a mis la bracha dans le monde. Alors, on commence déjà mieux à comprendre ce que dit Rashi en citant le Midrash qui dit « Beracho Baman ». Comment il a béni le septième jour? Où était la preuve de la bénédiction? C'est que la manne est tombée deux fois le sixième. c'est-à-dire la part de bénédiction qui devait venir dans le monde. Et vous voyez, l'exemple, c'est la nourriture, tout de suite. La part de bénédiction qui devait venir dans le monde a été mise le sixième. Parce que le septième, Dieu cesse d'intervenir. Donc le sixième, c'est le sixième jour que le septième a été béni. On lit maintenant le pshat du verset, reprenez le verset. Vaïchal Elohim bayom ha-shviyi melachto asher asa. Ça c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on dit le kiddush du vendredi soir, on va consacrer le septième jour, on va le transformer en Shabbat par la proclamation du kiddush. Mais le kiddush, c'est la bracha du kiddush. Les trois versets qu'il y a avant introduisent le kiddush. Le kiddush commence dans les brachot du kiddush, le gefen et la bénédiction sur le jour. Ça, c'est le kiddush lui-même. Les trois versets, d'ailleurs, ce n'est pas les mêmes le matin. Les trois versets, c'est pour rappeler le récit de la Torah que le septième jour est consacré en Shabbat. Alors, on commence par Yom HaShishi Vayichulu HaShamayim V'aretz. Vous avez remarqué ça ? C'est-à-dire le sixième jour a été réalisé ce qu'est la bracha du septième où Dieu a interrompu son intervention du Créateur. Vous suivez ? Alors c'est pourquoi on commence par Yom HaShishi Vayichulu HaShamayim V'aretz. Le sixième jour furent achevés les cieux et la terre et tout ce qu'ils renferment. Et dans le septième jour, Dieu a achevé Melarto Asherasa. Il a achevé l'heure des six jours, et le sixième a été faite, la bénédiction du septième. Vous suivez bien? Et qu'est-ce qu'il se passe le septième jour? Il fait apparaître la menoucha du Shabbat. Ça, c'est le deuxième verset. Alors, et Dieu a béni le septième jour. Il a mis dans le monde la bénédiction qui est spéciale au septième jour parce qu'il va, le sanctifier, le consacrer, le monde du septième jour. Alors, consacrer quelque chose, c'est le déclarer sacré, intouchable. Ça veut dire, Dieu s'interdit d'intervenir dans le monde à partir du septième jour, c'est tout le temps de l'histoire humaine, et c'est pourquoi le texte ne porte pas, et ce fut soir, ce fut matin, jour septième, c'est pas achevé. Lorsque le septième jour sera achevé, alors il y aura écrit, et ce fut soir, ce fut matin, jour septième. Et vous savez que c'est à la fin du septième jour qu'on attend Eliyahu HaNavih, qui doit faire quoi Eliyahu HaNavih ? Annoncer les temps du Messie. Oui, c'est à la fin du septième jour, on rentrera dans le huitième. Ça vous apprendra à propos de Hanouka, que chaque fête qui a huit jours a un sens messianique. Et ce qui se passe, c'est qu'on est encore dans ce grand septième jour, qui n'est pas encore achevé. Et parce que, donc, le monde devait devenir la nature, Dieu s'interdit d'y intervenir, alors il a béni d'abord pour pas que le monde soit un enfer. Voilà, ça pourrait être dit de manière très différente suivant les registres de vocabulaire choisis, mais l'idée est toujours la même. C'est l'ordre, vaï barer d'abord, vaï kadesh ensuite. Le signe de ça, c'est que le sixième jour, la manne est tombée deux fois, parce que le septième, elle ne devait pas tomber du tout. C'est ce que dit Rashi. Vous vous rappelez qu'on l'a eu la semaine dernière. Effectivement, il y a eu un temps privilégié. C'est le temps de la sortie d'Égypte, où Dieu s'est révélé à cette génération des 40 ans du désert. Et alors, cette génération a vécu cela, que le sixième jour, le monde était béni pour le septième, et le septième, il y avait interruption de cette bracha qui nous vient de Dieu. Vaï barer otam, parce que vaï kadesh oto. Alors, pour le temps qui me reste, très rapidement, je voudrais vous indiquer deux notions qu'on va étudier la prochaine fois, en introduction à l'histoire du premier homme. D'abord, je récapitule tout ce qu'on a appris jusque-là. Le monde est devenu la nature au septième jour pour que l'histoire de l'homme puisse commencer. Parce que si les phénomènes du monde ne sont pas stabilisés par les lois, l'homme n'est pas libre. C'est ce qu'on a appris la semaine dernière. Rappelez. Et puis alors, on apprend que la Torah a une conception des lois de la nature. C'est ce que les phénomènes sont devenus le septième jour. L'ordre naturel est installé le septième jour pour que l'histoire de l'homme commence. Alors, j'ai comparé cela au Shabbat. Vous allez le comprendre de façon très simple. De la même manière que pour le Shabbat de l'homme, s'il y a pikuach nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire pikuach nefesh? Si la personne humaine est en danger, on doit suspendre le Shabbat. Vous savez cela, s'il y a un malade qui risque de mourir, on interrompt le Shabbat pour s'occuper de lui. Ça s'appelle pikuach nefesh, doche et un Shabbat. Alors quand Dieu juge que le sort de l'humanité est en jeu, il intervient malgré le Shabbat du grand septième jour, et c'est ça le miracle. Vous suivez? Qu'est-ce qu'un miracle? C'est que Dieu suspend le Shabbat du commencement pour intervenir. Pourquoi? Parce que selon les lois du Shabbat, s'il y a pikuach nefesh, il faut interrompre le Shabbat. Alors vous comprenez pourquoi le miracle c'est si rare et c'est si exceptionnel. Et la Torah nous raconte que ces miracles où Dieu a jugé que l'histoire d'Israël était en danger, alors il intervient. L'exemple le plus clair, c'est le miracle de la sortie d'Égypte. On reprendra tout ça par la suite. Mais entre-temps, ce qu'il faut comprendre, c'est la notion de providence. Alors, la notion de providence, c'est que, bien qu'on est dans l'état du Shabbat, Dieu est relié au monde dont il est providence. Alors, vous allez étudier cette notion dans le Midrash que je vous ai distribué. Vous voyez, le paragraphe Yud 10. Je lis et je traduis, vous allez comprendre. Suivez bien sûr. Tu n'as pas de texte? Voilà. C'est un enseignement de Rabbi Pinchas, Beshem Rabbi Oshaya. Rabbi Pinchas, au nom de Rabbi Oshaya, qui était son maître, a enseigné ceci. Nous sommes sur notre verset. Afralgav, bien que, suivez sur le texte, bien que, Deatamar, c'est de l'araméen, mais je traduis directement en français, bien que tu dis, en citant le verset, qui beau Shabbat Mikol Melarto, car en lui, le septième jour, il a cessé de toute son œuvre, mais Melechet Olamo Shabbat, de l'heure de son monde, il a cessé. Velo Shabbat, l'homme Melechet Arshaim, velo Melechet Atzadikim. Mais il n'a pas cessé concernant l'œuvre des méchants et des justes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que les phénomènes naturels ont été stabilisés par les lois de la nature, et donc Dieu s'interdit de changer l'ordre de la nature, par Kadesh, pour que l'homme puisse être libre, mais il reste providence de l'histoire humaine, les phénomènes ne changent pas. Mais l'histoire est sous sa direction directe, qu'on appelle la providence, la Hashgaha en hébreu, c'est ce qu'il appelle, c'est formulé par rapport au problème moral, l'œuvre des méchants et des justes. C'est-à-dire l'histoire est jugée perpétuellement, Dieu intervient dans l'histoire des hommes, il n'intervient pas, miracle, dans les événements naturels. Quand il intervient, c'est parce qu'il y a pikuach nefesh. Mais il intervient de manière perpétuelle, la providence, sur les actions humaines. C'est-à-dire, la différence entre les méchants et les justes, c'est la morale. C'est-à-dire, l'histoire a un sens moral, et le septième jour, Dieu, créateur, continue à être providence de l'histoire. Mais cette histoire se développe dans le monde de la nature à partir du septième jour. Voilà, j'ai voulu vous donner, au début de l'année déjà, tout de suite, un exemple de ce que, si on n'étudie pas la Bible en hébreu et avec les commentaires de la Torah orale qui sont la tradition qui nous vient depuis le Sinaï jusqu'à nous, on ne comprend absolument pas l'importance de ces textes, de quoi ça parle. C'est-à-dire, vous avez dû deviner que derrière la traduction qui ne signifie que des choses difficiles, des contradictions, des étrangetés, il y a des thèmes très importants que la Torah nous révèle. D'abord, elle nous permet de diagnostiquer dans quel monde nous sommes. Nous sommes dans le monde de la création devenue la nature. Alors la question de base de ce décalage entre l'idée de Dieu, la perfection et l'imperfection du monde, ça s'est évanoui complètement. Dieu a voulu le monde de la création, mais il l'a transformé dans le monde de la nature pour que l'histoire de l'homme commence. C'est dans la nature qu'il y a les imperfections, qu'il y a le chaos, pas dans la création. La création, c'est le monde de vérité. La nature, c'est le monde de la réalité. C'est dans le monde de la réalité que les tuiles tombent du toit sans se demander si elle va tomber sur un rachat ou un tzadik. Ça, c'est dans la nature. Vous comprenez à quoi je fais allusion? Et alors, on apprend la première notion du Shabbat qui est très importante. Et c'est pourquoi le kiddush du Shabbat matin, on rappelle cela. Qui sheshet yamim asa Hashem et asomei metaret ou ayom eshevi shorezo inafash. Le Shabbat matin, on porte un témoignage. Nous savons que le monde, c'est la création. Dieu l'a créé et l'a a façonné en 6 jours, Sheshet Yamim Asar, et le 7e jour, il l'a transformé dans la nature qui est le Shabbat. C'est-à-dire l'alliance du Shabbat confiée à Israël, c'est qu'Israël se souvient que le monde, c'est la nature, mais c'est la création devenue la nature. La nature ne postule pas un créateur. C'est par la foi que nous savons que cette nature a été créée à l'origine. Quelle est la preuve? La bénédiction qu'il y a dans la nature. Voilà, vous rassemblerez toutes ces notions, vous y réfléchirez, et vous commencerez un peu à vous habituer à penser ce qu'enseigne la Torah en hébreu. Vous voyez que ça a un sens complètement différent de ce qu'on pourrait supposer, des espèces de lectures de bondieuserie, de sacristie que vous lisez dans les traductions. Alors, je vais vous demander de préparer pour la prochaine fois. Et vous prendrez le chapitre 4. Et je vais vous dire quel verset vous allez préparer. Au chapitre 4, c'est Dalet,